On n'est pas allé la dernière fois, on ferait mieux de refaire un petit tour à l'Alma, non ?
Du côté de l'Alma.
Du côté de l'Alma.
Du côté de l'Alma.
En plus, c'est vrai que c'est un beau coin.
Du côté de l'Alma.
C'est la place Edmond Arnaud et ça c'est le cours.
Une émission de quartier.
Tu veux aller par là ?
Quotidienne et éphémère.
Et il y avait la fête, il y avait même des cracheurs de feu.
Éphémère.
On peut se faire un petit coup de cerveau et bouteilleur.
On y sont les habitants.
Donc on va...
Une ouverture exceptionnelle du 12 rue Trécloître, du 6 au 11 octobre, sur Trécloître Radio 90.8.
Trécloître Radio 90.8.
Vous êtes sur Radio Campus Grenoble 90.8 et sur une radio associative.
En France, nous sommes 1,5 million d'associations à agir dans tous les territoires, dans toutes les sphères de la vie quotidienne.
Solidarité.
Éducation populaire.
Culture.
Sport.
Santé.
Environnement.
Accompagnement des plus fragiles.
Les associations sont au cœur de nos vies.
Nous traversons toutes une crise sans précédent. Baisse de financement, précarité croissante et remise en cause des activités d'intérêt général au service du bien commun.
Pour ces raisons, les associations se mobilisent dans toute la France ce samedi 11 octobre.
11 octobre.
À Grenoble, un village associatif sera ouvert place Saint-Bruno toute la journée du 11 octobre.
11 octobre.
Et une émission spéciale aura lieu sur notre antenne vendredi 10 octobre à 10h.
Plus d'infos sur ça-ne-tient-plus.org.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Trécloître Radio pour cette cinquième journée de notre radio éphémère installée au 12 rue Trécloître dans le contexte du festival Ouverture Exceptionnelle. Comme vous venez de l'entendre, c'est dans le cadre de la mobilisation de demain, samedi 11 octobre, du milieu associatif en crise, on peut le dire, qu'on vous propose cette émission ce matin sur l'état du milieu associatif entre marchandisation et réprimande, si on dit ça comme ça, je ne sais pas, pas sûr. Aujourd'hui, je suis avec Rémi pour co-animer cette émission.
Salut.
Bonjour Nicolas. Rémi. Et on a la chance d'avoir avec nous Fabien Giverneau, qui est directeur artistique de MixArt. Bonjour, bonjour Fabien. Marie Faranda de Cap Beria et du collectif Association en danger.
Bonjour.
Bonjour Marie. Et on aura aussi en visio, si tout fonctionne correctement, Clémentine Métainier, qui est journaliste et qui a mené avec sa collègue une enquête pour le monde diplomatique en janvier 2003 sur le groupe SOS, dont on parlera un peu plus précisément. On a imaginé cette émission en trois temps. On va commencer par revenir sur la baisse des subventions publiques et le long et sûr glissement vers le mécénat privé. Ensuite, avec notamment cet exemple du groupe SOS, le phénomène dont on est tous témoins dans le milieu associatif, du glissement aussi vers l'entrepreneuriat social et le rachat de nombreuses associations par des grands groupes. Et puis, on reviendra sur la question de la liberté associative et la liberté d'expression associative avec ce contrat d'engagement républicain qu'on a tous dû signer depuis quelques années. On va commencer en douceur avec un premier extrait musical avant de commencer.
C'est une inquiétude pour la rentrée. Les associations subissent une baisse des subventions publiques. En Corrèze, celles qui sont affectées par cette nouvelle donne tentent de s'adapter. Charles de Quillac, Alexandra Fergon.
Chaque mois, elles se retrouvent autour de cette table pour partager leurs expériences.
On est seul quand on est dans les emmerdes et qu'on est femme.
Des femmes victimes de violences au sein de leur foyer, un jour, elles ont décidé de solliciter l'aide de l'association.
Le but, c'est de reprendre sa vie en main, ce qui n'est pas si facile.
SOS Violence Conjugale accompagne 535 victimes en Corrèze, c'est 25% de plus en un an. Mais dans le même temps, l'association a subi une coupe de 11 000 euros de la part de l'État, moins 15% dans son budget de fonctionnement.
Je ne tolère pas qu'on nous supprime des subventions pour la bonne et simple raison que l'État nous a désignés pour faire ce travail. Je ne trouve pas normal que l'État ne paye pas ce qui commande.
Face à des situations à risque, bénévoles et salariés de la structure en font toujours plus pour pallier le manque de moyens.
Au départ, ma collègue elle avait 4 dossiers, maintenant elle a plus de 100 dossiers.
Alors, Marie et Fabien, du coup, là, ce qu'on entend, bon, on l'a bien compris, hein, là, c'est un peu le nerf de la guerre, c'est les baisses de financement au niveau des associations. C'est un petit peu, depuis quelques années quand même, ce qu'on entend un petit peu, c'est ce qui couvre un petit peu, tout le mouvement. Peut-être avant d'échanger sur ces questions-là, moi, j'aimerais que vous nous expliquiez, peut-être pour que les auditeuristes qui nous écoutent et que tout le monde comprenne bien, comment marche le financement des associations de façon un peu générale. C'est-à-dire, est-ce que, voilà, on n'a que de l'argent public qui vient? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Et avant qu'on rentre un peu dans les détails, peut-être. Marie.
Alors, nous, on n'a pas que de l'argent public. Et d'ailleurs, l'argent public baisse beaucoup et on va en parler pour expliquer un petit peu. Donc, effectivement, on a des subventions, surtout sur projet maintenant, avant un peu plus sur fonctionnement. On a aussi beaucoup de financement privé de plus en plus. Alors, le financement privé, ça va être du mécénat, d'entreprises, de fondations. Ça va être aussi tout l'argent qu'on arrive à récupérer via nos événements, donc par les gens qui vont venir à nos événements. Ça, c'est aussi une grosse part des financements associatifs. On a des dons aussi également.
Quand on parle de subvention, pour revenir sur la partie argent public, quand on parle de subvention, on parle de quoi? C'est-à-dire, comment ça se passe? C'est donc de l'argent public qui vient des impôts et on vous donne, n'importe qui monte une association, elle peut venir demander de l'argent, une subvention, et on lui donne, c'est ça?
Comment ça se passe? Ça ne va pas être si simple que ça, mais effectivement, n'importe quelle association en soi, à partir du moment où elle signe le contrat d'engagement républicain maintenant, elle peut avoir accès à des subventions publiques de collectivités, donc de la ville, du département, de la région ou de l'État notamment, et au-delà. Après, ça va être soumis à certains critères et c'est de plus en plus créé. Enfin, il y a de plus en plus de critères et il y a différents types de subventions. Je parlais tout à l'heure de subventions de fonctionnement. Alors ça a tendance à diminuer, mais c'était l'idée de subventionner l'association en soi pour lui permettre de faire son activité. Maintenant, on n'est plus sur la subvention sur projet, donc ça va être de déposer un projet dans le temps, inscrit dans le temps, et de recevoir une subvention. Quand on a de la chance, par rapport à un projet défini, quoi.
Donc, par exemple, toi, Fabien, avec Mixart, par exemple, avec votre association, vous, quand vous allez chercher une subvention, maintenant, ça va être plus, on a tel projet, on va faire ça, et du coup, on te donne de l'argent, une subvention en tout cas, par rapport au projet que tu poses, c'est ça, maintenant, c'est exclusivement ça?
C'est quasiment exclusivement ça, oui. C'est vrai que, comme l'a dit Marie, les subventions de fonctionnement, ce qui était plutôt la base avant et ce qui était quand même agréable parce que du coup, tu étais financé pas par projet, mais par ton fonctionnement global. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait aussi une confiance laissée aux associations. Là, maintenant, quand tu es financé par projet, ça veut dire que le projet, il faut qu'il réponde à des critères politiques. Suivant le bord politique, bah, c'est pas forcément les mêmes. Et ce qu'on voit aussi quand même de plus en plus maintenant, c'est que même par projet, c'est plus forcément ça les financements. Les financements, ils sont faits par appel à projet. Ça veut dire que ça devient une commande publique. Et maintenant, il y a des associations où leur objet, c'est répondre à des appels à projet. Et ça, c'est quand même extrêmement problématique, notamment pour la liberté de création, notamment pour imaginer des projets, tout ça. Enfin, du coup, on répond à des commandes publiques et c'est plus du tout une liberté donnée aux associations, en fait, quoi. Et ça, c'est quand même un basculement qui se fait dans toutes les collectivités. Après, effectivement, il y a ce truc d'engagement républicain. La petite exception, c'est que la métropole, par exemple, et la ville n'ont pas ce truc d'engagement républicain. C'est vraiment la région. À la base, ça venait que de la région. Et le département s'y est mis aussi. Voilà, mais ça, c'est encore autre chose. Mais
on en parlera pendant l'émission. Ouais. Mmh. Ouais, ok. Et du coup, la question des baisses, elle est là depuis combien de temps? Et comment elle pèse? Peut-être aussi d'ailleurs quel volume ça représente en moyenne les financements publics sur les associations. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'on dit, je parle des associations, mais on est bien d'accord que quand on dit des associations, c'est très large. On peut parler de sport, de culture, d'environnement, mais peut-être globalement, il existe sans doute quelques chiffres en tout cas. Ça représente combien le financement public en moyenne?
On estime qu'entre 2005 et 2020, la part des subventions publiques dans une association, elle a baissé de 41%. Et donc, on est passé à peu près, si j'ai le chiffre exact, de 34% à 20% dans les budgets des associations. Donc, c'est quand même une part considérable, quoi, qui a baissé et qui demande donc soit de réduire l'activité des associations, soit de compenser avec d'autres types de financement qui apportent du coup d'autres problématiques aussi.
Là, par exemple, vous, Fabien, par exemple, à Mixart, vous compensez comment, justement, la baisse et puis même votre budget? C'est-à-dire que alors, Marie disait 20% en moyenne d'argent de subventions publiques. Vous, par exemple, aujourd'hui, c'est combien et comment vous compensez le reste?
Nous, on est à 8% de financement public. On compense très majoritairement depuis le début en ayant des emplois extrêmement précaires. Voilà, clairement, c'est ce qui fait... ce qui fait vivre l'association, c'est qu'on soit mal payé et qu'on travaille beaucoup, comme beaucoup dans le milieu associatif. Et après, on compense par de l'activité, en fait, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que les associations, maintenant, vu qu'elles n'ont plus forcément de financement pour faire leurs projets, elles sont obligées d'aller chercher des financements ailleurs, donc par des appels à projets. Donc, en fait, quand tu passes ton temps à répondre à des appels à projets, tu ne fais pas les projets pour lesquels tu as un objet associatif, quoi. Et puis en allant faire des prestations, nous par exemple on fait énormément de prestations sur des collectivités avec d'autres structures ou autres, et du coup qui dit prestation dit travail en plus, clairement. Donc du coup c'est bosser plus pour travailler, travailler plus pour gagner, pas plus, mais du coup là on est un peu là-dedans, et du coup on est tout le temps un peu sur la charrette. Et ce qui crée aussi quand même, là on n'en parle pas assez, mais dans le milieu associatif, il y a un épuisement très très fort des salariés associatifs. Là, on le voit actuellement, la santé mentale, c'est catastrophique dans les associations. Parce que justement, il y a cette précarisation, il y a ce travail où on t'en demande toujours plus. Alors qu'à la base, c'est quand même quelque chose de volontaire de travailler dans une association, c'est même militant, et c'est chouette, parce que du coup, on n'est pas forcément dans une zone mercantile et tout ça. Mais voilà, cette précarisation-là est quand même violente, vécue en tout cas violemment par énormément de gens. Et après, effectivement, quand on parle d'association, ça reste quand même très large. Il y a des associations qui s'en sortent très bien, qui sont subventionnées parfois à 90%, et d'autres qui ne sont pas subventionnées pour moult raisons. Donc c'est vrai que le milieu associatif, c'est aussi un milieu, je pense, à revoir. À partir du moment où il y a des salariés dans une association, est-ce que vraiment le modèle associatif est viable? Je ne sais pas. Enfin voilà, il y a pas mal de questionnements comme ça, quoi.
Et justement, je voulais vous poser la question, finalement, pour quelles raisons l'État, en fait, devrait financer des associations? Parce que finalement, c'est des structures privées. Alors, le milieu de l'entreprise en France est aussi très, très, très subventionné.
Bien plus que les associations.
C'est ça, ouais, je crois que c'est 230 milliards, un truc comme ça. Le chiffre que j'ai en tête pour les associations, c'est que c'est environ 50 milliards par an de subventions. Mais pour quelles raisons, finalement, l'État devrait financer ce que font les associations?
Les associations, ça remplace quand même bien souvent le service public. Ils font le travail que l'État ne fait pas, par exemple, ou des fois à juste titre, des fois pas forcément à juste titre. Sur le milieu culturel, par exemple, c'est quand même important. Enfin, il y a quelque chose qui s'appelle les droits culturels, qui sont des droits inscrits dans la Constitution française. Donc tous les habitants de France ont des droits culturels, d'où qu'ils viennent, quelle religion ils ont, tout ça. Et donc du coup, ça fait partie d'une obligation, en fait, de l'État de financer ces droits-là. Et donc, du coup, de faire vivre les gens de le modèle culturel. Donc, en fait, c'est pas... Nous, on estime en tout cas que c'est pas aux collectivités de proposer des projets culturels. C'est aux habitants, c'est à la société civile, c'est aux associations, c'est aux artistes. Et donc, du coup, pour ça, ils ont besoin de financement. Parce que ça peut pas être rentable. Les associations, elles font quoi? Elles font du sport, elles font du social, elles font de la santé, de la solidarité, de la culture. Tout ça, c'est que des choses qui, malgré certaines personnes... pense être rentable, ça n'est absolument pas rentable et ça n'a pas vocation à être rentable. On ne peut pas marchandiser la santé, le social, la culture, c'est pas possible, quoi.
Alors on en reparlera dans la deuxième partie d'émission parce qu'il y en a certains qui pensent qu'on peut le faire et qui commencent à le faire d'ailleurs. Okay. Marie, tu parlais aussi dans les modes de financement, tu as parlé un petit peu du privé, de fondation, de mécénat. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont ces mots et la réalité qu'il y a derrière?
Oui. Le principe du mécénat des fondations privées, ça va être de trouver des sources de financement différentes, donc dans le privé plutôt que dans le public. Je disais que ça apportait d'autres problématiques parce que dans le public, on a parfois des restrictions politiques, mais en fait, dans le privé, quand il y a un objectif quand il y a un objectif économique qui passe d'abord, évidemment, ça pose d'autres problématiques évidentes. Et donc, les associations, parce qu'il y a une baisse de subventions publiques, vont se tourner vers le privé, vers le mécénat, donc vers des entreprises ou des fondations d'entreprises qui peuvent les financer. Et là, pareil, en fait, comme il y a une baisse dans le public, tout le monde va aller sur le mécénat, tout le monde va aller sur les fondations pour aller chercher d'autres financements privés, et ça va apporter d'autres problèmes de mise en concurrence des associations, parce que de la même manière, comme toutes les associations sont en difficulté et précarisées, elles se retrouvent en concurrence parce que les financements ne sont pas non plus infinis dans le privé, quoi.
Donc concrètement, ça veut dire, par exemple, je suis une asso, je peux aller voir, je sais pas, le magasin du coin, le Carrefour du coin, ou le McDo du coin, et aller leur demander de l'argent sur mon projet associatif, c'est ça?
Non, pas vraiment. Alors tu peux peut-être faire ça et peut-être qu'ils pourront t'aider un petit peu à travailler avec toi, mais je compte pas beaucoup sur Carrefour pour aider les structures associatives, j'avoue.
C'est qui les privés qui vont donner de l'argent à des associations du coup ?
Eh ben, ça va être des grands groupes. Ça va être des grands groupes qui montent des fondations. Est-ce que j'ai un exemple ? Est-ce que Fabien, t'as un exemple ?
Franchement, la fondation Carrefour, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle finance quand même beaucoup de projets autour de l'alimentation et tout ça.
C'est ça, c'est des grandes fondations d'entreprises. Fondation il y a France, certaines banques aussi.
C'est quoi leur intérêt de financer, de venir pallier ? Donc, ce que je comprends, c'est qu'ils viennent pallier le déficit de l'État, finalement, à venir financer vos projets. C'est quoi l'intérêt pour ces entreprises de venir financer vos projets ?
Il y en a plusieurs. Ça permet un peu de redorer leur image, évidemment. Enfin, comme il y a le greenwashing pour l'écologie, il y a l'association washing, je ne sais pas comment on peut dire ça, du social washing peut-être. Donc ça permet effectivement de redorer leur image et d'avoir des financements de la part du public aussi, enfin de l'État. Et puis c'est une manière de créer de la spéculation, parce que l'argent circule, donc ça spécule, et donc ça les avantage, elles, dans leur volonté d'engranger de la monnaie, quoi.
Après, pour des plus petites entreprises, on va dire, il y a aussi un intérêt de valoriser ses salariés. Par exemple, quand on fait de la grande culture, mettons, quand on a des stars et tout ça, et ben, les entreprises, elles vont pouvoir être invitées, enfin leurs salariés pourront être invités sur des concerts en place VIP, des choses comme ça. Et du coup, c'est une manière aussi de valoriser ses salariés pour certaines structures. Et puis, elles se sentent, je ne sais pas comment dire, mais voilà, les chefs d'entreprise, ils se sentent un peu plus... ils sont quelqu'un quand ils vont dans des zones VIP, serrer des pinces à des élus, avec des directeurs, des directrices, tout ça. Donc il y a aussi ce côté-là quand même pas
et
mal.
Puis est-ce qu'un chef d'entreprise ne peut pas non plus finalement le faire de façon un peu... Bon alors, c'est peut-être naïf ce que je vais dire, mais en fait, il a envie de participer d'une façon ou d'une autre finalement en fait, à la vie de la... Voilà, la vie de la cité, de la société, et c'est peut-être sa façon à lui de mettre un peu une petite pierre au truc, quoi.
Bah, c'est pour ça qu'il y a différentes... dans le mécénat, il y a quand même différents niveaux entre des multinationales qui vont effectivement faire ça pour le greenwashing, pour payer moins d'impôts et tout ça, et après des petites entreprises en fait, qui vont aller financer le club de foot du coin ou l'association des parents d'élèves, enfin j'en sais rien, je dis au pif, mais en fait juste parce que c'est une manière d'être altruiste aussi et de faire vivre leur territoire, ça c'est une réalité. Et par exemple les clubs de sport fonctionnent énormément par le mécénat, même si ça coûte 500 balles, 1000 balles, mais en fait c'est ce qui permet aux gamins d'acheter des chaussures, des maillots, des choses comme ça, quoi.
Ouais, on voit beaucoup de bannières souvent autour des stades de foot, ouais, là, dans toutes les petites villes.
Et là c'est absolument pas dans une volonté commerciale ou autre, c'est clairement pour aider, quoi.
Pour clôturer cette première partie, peut-être juste une petite question autour de l'évolution législative et politique justement de ces financements, en particulier sur peut-être justement le privé. Comment ça a évolué les dernières années ? Est-ce qu'il y a eu un contexte politique et on va dire légal qui a facilité le fait d'aller chercher des financements autres que des financements publics ?
Alors la première chose, enfin les choses qui me viennent en tête là, et quelque chose dont on va sûrement parler après, c'est le contrat impact social. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un petit peu technique, mais l'idée c'est que le public puisse financer une entreprise qui va donner de l'argent à une association et que l'entreprise que l'entreprise prête de l'argent à une association et que le public puisse la rembourser, que rembourser l'entreprise si jamais l'association atteint des objectifs. En fait, ça va sûrement faire la transition avec après sur le groupe SOS, il y a quand même une volonté du public d'aller accompagner le privé à accompagner les associations dans un objectif de spéculation. Et on le voit beaucoup depuis les 10 dernières années avec la politique macroniste, c'est qu'il y a vraiment une volonté d'aller beaucoup, beaucoup aider les entreprises en particulier, et du coup au profit des associations nécessairement, quoi.
On se fait une petite pause musicale et on se retrouve tous les quatre juste après.
C'est une inquiétude pour la rentrée. Les associations subissent une baisse des subventions publiques. En Corrèze, celles qui sont affectées par cette nouvelle donne tentent de s'adapter.
BFM Business, Good Morning Business, l'interview.
Il est 8h17 et donc c'est donc un invité singulier. En fait, encore que non, parce que finalement l'économie sociale et solidaire, de plus en plus, elle fait partie de nos vies. Elle crée d'ailleurs des vocations hein, chez beaucoup de jeunes qui s'engagent désormais dans les entreprises différentes, comme les vôtres. Jean-Marc Borrello, vous êtes le patron du groupe SOS. On va redire ce que vous êtes parce que vous avez à peu près 650 établissements, associations, vous œuvrez dans 33 pays. Vous avez 2 millions de clients, ou devrais-je dire de bénéficiaires?
De bénéficiaires, oui.
Bon, et alors vous êtes une licorne, vous m'avez dit ce matin, parce que vous valez plus d'un milliard d'euros. Moi aussi, vous m'avez dit. Mmh. En tout cas, c'est votre valeur liquidative nette. Et vous avez 1,2 milliard de budget.
Alors, on est de retour sur les ondes. Clémentine, est-ce que tu es avec nous, Clémentine Metteny?
Oui, je suis là, bonjour.
Super, merci beaucoup d'être rendue disponible. On va profiter assez rapidement de ta présence. Pour questionner cette histoire de grands groupes, et notamment le groupe SOS qui œuvre particulièrement en France, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que ce phénomène d'entrepreneuriat social? Où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est toujours dans l'associatif? Est-ce qu'on est dans le privé, dans le public? Est-ce qu'on est toujours effectivement dans l'économie sociale et solidaire?
Oui, je réagis en écoutant Jean-Marc Borrello. Effectivement, il n'aime pas du tout qu'on puisse... dire le mot client plutôt que bénéficiaire. En tout cas,
surtout
il s'accroche
pas
à ça. Hein, effectivement, même si ça peut parfois... la frontière est mince entre ce que fait vraiment le groupe SOS et ce que ça reste de l'économie sociale et solidaire. En tout cas, il en est convaincu. Dans ses débuts, c'était quand même ça. Dans les années 80, Drogue Internationale, c'était le projet à Marseille quand même. Et puis petit à petit, le groupe s'est développé dans tous les champs du secteur médico-social. Et on peut dire que, en fait, la question que vous posez, c'est vraiment dans quelle mesure l'entrepreneuriat social est venu prendre le pas, ou en tout cas est venu s'accoler à cette notion d'économie sociale et solidaire, où on disait qu'en gros, et Borrello en a été un des chantres, quoi, de dire l'entrepreneuriat social, c'est l'efficacité de l'économie sociale. En fait, l'économie sociale, c'est des petites associations qui ont le mérite d'exister, mais elles ne peuvent pas s'en sortir toutes seules, de toute façon, il n'y a pas de moyens, etc. Et donc, c'est un peu l'idée qu'on vient rendre efficace l'action sociale, quoi. Et le groupe SOS a vraiment explosé plutôt dans les 15 dernières années. Et je pense que c'est un peu tout le fil rouge de votre émission que de dire que c'est lié aux appels d'offres, où de plus en plus, il faut que le monde, le secteur associatif, les associations s'organisent, répondent en consortium pour être en capacité d'avoir les ressources, en fait, pour récupérer les appels d'offres et agir, quoi, dans le social. Et puis l'autre pilier du groupe SOS, c'est de reprendre des associations en difficulté. Et ça, ça a été toujours dans cette idée d'efficacité, de dire mais nous, en fait, on est capable aujourd'hui de rendre le secteur social beaucoup plus dynamique, beaucoup plus parce que le nerf de la guerre, c'est de l'argent. Donc c'est un petit peu ça. Et en fait, il joue là-dessus quand même le groupe SOS. On peut pas dire non plus que c'est du privé. Alors c'est du privé associatif, hein, mais on peut pas dire non plus que c'est de l'économie sociale et solidaire pure, quoi.
Parce que si je me trompe pas, il y a quand même une grosse part de leur financement qui reste de l'argent public.
Oui, exactement. En fait, le groupe SOS, qu'on a pu, nous, un petit peu montrer aussi dans nos enquêtes avec ma collègue Margot Emmerich, et ce qu'on constate, c'est qu'il y a une forme de délégation du service public, en fait. C'est avec le groupe SOS, il n'est pas tout seul, il y en a plein des grosses associations qui aujourd'hui répondent à des appels d'offres et prennent le pas sur toutes les petites assos. C'est pas nouveau et c'est pas unique. Mais le groupe SOS a aussi ça que par la trajectoire de Jean-Marc Borrello, par ses liens aussi, mine de rien, quand même politiques, même si il ne s'en cache pas et qu'on ne peut pas forcément parler de conflit d'intérêts, même s'il y en a sûrement, c'est plutôt cette idée de nous, on est en capacité d'aller chercher l'argent public. Et donc, il y a plein d'exemples dans plein de secteurs où le groupe SOS a en effet été dans la continuité de l'État, ce qui pose problème sur le désengagement aujourd'hui de l'État social, on va dire.
Oui, parce qu'on remarque quand même qu'à plusieurs postes clés de ce grand groupe, les directeurs de filiales, entre guillemets, si on peut se permettre, parce qu'ils ont eu des parties sur l'aspect social, sur l'aspect sportif, sur l'aspect éducation, santé, etc. Il y a quand même souvent des gens qui ont fait leurs armes au sein même des ministères ou des cabinets des uns et des autres des politiques actuelles.
Il y a ça, effectivement. Alors moi, c'est pas forcément l'aspect que j'ai le plus creusé, moi, de suivre les trajectoires, même si c'est en effet très intéressant. Après, encore une fois, c'est pas que au groupe SOS, mais il y en a... C'est aussi, effectivement... Et puis, on peut pas que parler d'acquaintance politique, mais il y a aussi le fait que c'est beaucoup de gens qui viennent du secteur, on va dire, commerce, quoi. Des grandes écoles d'HEC, des grandes écoles de commerce. C'était aussi l'idée de se dire, d'aller puiser dans ce... dans ces jeunes-là qui se forment plutôt au management privé, à la manière de gérer des entreprises et d'aller fournir ça dans le social. C'est ça, en fait, la marque de fabrique aussi du groupe. Et notamment pour revenir sur le privé, ou en tout cas la manière aujourd'hui de considérer le groupe comme de l'économie sociale ou pas, c'est quand même des méthodes, et moi j'ai vraiment plus documenté ça avec ma collègue, c'est les méthodes du privé, de management privé appliqué au monde du social. Et ça, c'est des vraies problématiques parce que, du coup, ça pose des problèmes dans le mal-être au travail, dans la manière dont aujourd'hui, c'est comme une transformation totale de la manière dont on avait l'habitude de travailler dans le monde du social. Alors, il n'y a pas que des choses négatives. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Mais en tout cas, ça peut laisser des traces dans le social en appliquant des méthodes assez brutales en fait, de management qui, aujourd'hui, sont quand même en décalage total avec la manière dont le monde associatif fonctionne en général, quoi.
Je veux bien qu'on revienne juste après sur justement les conséquences de tout ça sur les associations et sur les bénéficiaires des associations, mais juste pour revenir à cette stratégie à la fois de réponse d'appel d'offres public et de reprise des associations qui seraient en difficulté. Justement, qu'est-ce qui fait que ce groupe et ces groupes séduisent à ce point le public pour qu'ils choisissent de leur diriger une grande partie de leur financement? Est-ce que c'est justement... cette crédibilité, entre guillemets, puisqu'ils sont devenus un peu des professionnels de l'associatif, enfin en tout cas de la demande de subvention, ils ont acquis une certaine technicité peut-être du fait qu'ils soient formés, comme tu l'as dit, au management entrepreneurial.
Oui, c'est exactement ça. Et je pense que c'est pas tant séduire le public. En fait, c'est pas les bénéficiaires ou c'est pas eux qui choisissent d'être chapeautés par telle structure. Mais c'est, c'est la manière dont dans le monde administratif, à un moment donné, n'est plus en mesure. Je veux dire, les collectivités locales, en fait, elles ont pas le choix, quoi. Elles se retrouvent prises en tenaille. Et en fait, elles sont obligées de faire des appels d'offres, ça c'est obligatoire. Et donc à ce moment-là, quand quelqu'un, des groupes sont plus en capacité de répondre parce qu'ils ont en fait toutes les moyens de le faire, en fait, les moyens humains, les moyens financiers, puis les moyens aussi. Enfin, je veux dire, c'est pas évident de répondre à des appels d'offres, quoi. Enfin, je pense que tous autour de la table, vous en êtes conscients, quoi. Ça prend beaucoup de temps. Faut être un peu rodé à la machine. Et puis, en fait, il y a un moment donné, en baissant les prix, on sait qu'on l'aura. Et je pense que le groupe SOS s'est fait aussi connaître dans sa manière de, entre guillemets, de bien travailler. C'est-à-dire que nous, on montre le côté plus sombre. Et là, c'est pour aller plutôt sur ta deuxième question, le côté un peu... l'impact que ça a quand même de ces structures, mais globalement, ça fonctionne. C'est-à-dire
il y a eu de nombreuses associations qui ont été sauvées de la banqueroute, entre guillemets, par ce groupe-là. Donc, il y a quand même quelque chose de séduisant dans cette affaire.
Bien sûr, et puis ça fonctionne au sens où, effectivement, dans des secteurs très compliqués comme la protection de l'enfance, enfin, il y a énormément d'aujourd'hui, on le sait très bien, c'est très compliqué dans plein de secteurs sociaux. Ils ont eu quand même une capacité, notamment après le Covid en 2021, d'aller aller voir les structures qui fermaient en leur disant nous, on peut vous récupérer, de faire de la veille auprès des tribunaux administratifs pour récupérer. Et surtout, ils aident les associations à se restructurer. Et ça, c'est effectivement la marque de fabrique, encore une fois, du groupe, de dire on vient quand même sauver. Et surtout que là où c'est un peu tendancieux, c'est que les associations, elles restent associations. Le groupe SOS les chapote, mais alors petit à petit, nous, c'est ce qu'on a démontré, hein, dans certaines structures, il y a un phénomène de démantèlement à l'intérieur. Et petit à petit, les personnes qui étaient là depuis longtemps sont mises de côté. Donc voilà, mais ça prend du temps. Et finalement, c'est très dur, ça c'est pour revenir sur ta deuxième question, c'est très difficile d'évaluer un impact négatif sur les bénéficiaires. Oui. En fait, dans un premier temps, on voit l'impact sur les salariés, beaucoup, mais l'impact sur les bénéficiaires est compliqué parce qu'on le sait tous, le monde du social, médico-social en général, est très affecté de toute façon et dans une, enfin, c'est dans une situation très complexe. Donc, est-ce qu'on peut imputer ça au groupe SOS ou juste à l'état global du social? C'est très difficile. Donc, on ne peut pas dire que l'impact sur les bénéficiaires est vraiment très, très grave, quoi.
On va peut-être pouvoir interroger ça avec Fabien et Marie, qui sont un peu au cœur des associations aussi et peut-être en lien plus direct avec leurs bénéficiaires. En tout cas, merci beaucoup Clémentine Mettini pour avoir partagé cette enquête que tu avais menée pour le monde diplomatique en 2023. Je crois qu'il y a aussi une participation à la revue Dessinée sur laquelle on peut retrouver aussi tout ce travail.
Oui.
Merci beaucoup.
Merci à vous pour l'invitation.
Marie, Fabien, qu'est-ce que est-ce que ça vous parle tout ça? Comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que vous avez été personnellement ou même indirectement approché par des groupes comme ça? Est-ce qu'il y a cette tentation-là parfois d'être repris par des gestionnaires de l'associatif? Comment est-ce que ça se passe de votre côté?
Nous, le groupe SOS dans le milieu culturel, pour le coup, il n'est pas présent. Par contre, on a le même phénomène avec des multinationales. Ça peut être AEG, ça peut être Vinci, ça peut être Vivendi, toutes ces choses-là. Ils rachètent en ce moment énormément de festivals, de salles de concert, de boîtes de production. Clairement, là, quasiment tous les gros festivals en France sont gérés par des multinationales. Live Nation, par exemple. Ouais.
Mais alors du coup, j'ai envie de poser la question un peu naïvement. C'est quoi le problème?
Eh ben, le problème, c'est que du coup, il va y avoir quand même derrière ça, en fait, quand tu crées un festival, tu crées un événement culturel, c'est tu crées un écosystème derrière. Ce qui est intéressant dans le monde culturel, c'est pas juste d'organiser un festival, faire venir des artistes qui sont des stars et de gagner de l'argent, quoi. Ce qui est aussi, tu impactes un territoire, tu as une écologie derrière, environnementale. C'est qu'est-ce que tu mets en place sur le territoire pour finalement que les habitants profitent de cet événement. Ça va être des actions culturelles, ça va être autour des questions écologiques notamment. Qu'est-ce que tu donnes à manger aux gens? Qu'est-ce que tu donnes à boire aux gens? Comment les gens viennent à ton festival? Ça, c'est des questions qui impactent les habitants, qui impactent les territoires. Et ces grands groupes-là ne se les posent absolument pas parce que ce n'est pas du tout leur objectif. Leur objectif, c'est de gagner de l'argent. Voilà. Donc du coup, c'est-à-dire qu'on ne répond plus à des politiques culturelles. Et le deuxième problème, c'est que les financements publics, maintenant, vont de plus en plus vers ce genre d'événements. C'est-à-dire que ce qui intéresse les financements publics dans leur grande majorité, maintenant, c'est de la communication. On n'est plus sur de la politique culturelle, on est sur de la politique de communication. Ça veut dire que financer un énorme festival qui va avoir un impact national, du coup, et où il va y avoir de l'argent public dedans. Alors que finalement, là où il devrait y avoir de l'argent public pour nous, c'est la multiplicité de petits événements qui font vivre les territoires, qui sont choisis par les habitants et tout ça. Dans ces gros festivals-là, les habitants, ils n'en profitent pas, parce que bien souvent, c'est hors de leur portée financière. Enfin voilà, ce genre de choses, en fait.
On touche aux limites d'une stratégie uniquement financière et lucrative et à cette recherche d'économie d'échelle. Est-ce que tu avais des choses à ajouter?
Du côté de Cabaria, nous, on est vraiment dans l'accompagnement des jeunes notamment, et on a toujours fait un accompagnement gratuit et sans condition. Et on est beaucoup aussi sur la formation, donc des bénévoles et des professionnels. Et nous, on n'a pas le groupe SOS à notre trousse. Par contre, effectivement, on a aussi beaucoup de concurrence sur la formation professionnelle et sur l'accompagnement. Et ça pose exactement les mêmes problématiques. Nous, on se revendique beaucoup des droits culturels aussi et de l'éducation populaire. Et quand on se retrouve face à des structures qui ont beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de communication, beaucoup plus de monde parfois, effectivement c'est pas évident de nous pouvoir continuer à assurer cette formation, cet accompagnement bénévole gratuit et sans condition, en revendiquant cette éducation populaire qui nous est chère et que d'autres structures en face ne vont pas du tout revendiquer.
Après, ce qu'il faut savoir, peut-être juste pour illustrer aussi le tout ce dont on vient de parler et l'amener un peu au niveau local, avec un exemple, il y a la MJC de Fontaine, je ne sais pas si vous avez suivi ce truc-là, mais qui était une MJC qui était associative depuis 60 années. Il y avait une asso qui gérait d'habitants, qui gérait cette MJC. Et puis quand la municipalité a changé de bord, ils ont décidé de dire ciao à la
à la MJC, à la gestion associative, et ils ont fait venir un groupe qui s'appelle Viltaïs, pour reprendre ce lieu.
Viltaïs, qui le directeur était élu au conseil régional, de même que le maire.
Qui avait des liens politiques avec le maire, et groupe Viltaïs, qui fait partie du groupe SOS. Ouais. Viltaïs a repris donc cette MJC, et finalement, en fait, ça a fait plouf, quoi. C'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, je crois, la mairie, malgré tout, a dit, bon, bah, en fait, a dit au revoir à Viltaïs, parce que ça ne marchait pas, quoi. Donc, des fois, ça marche, parce que là, voilà, on est en train de dire que finalement, tout fonctionnait, mais des fois, ça ne marche pas. Et, voilà, là, en
Après,
l'occurrence,
quand ça marche, il faut aussi relativiser, parce que ça veut dire, par exemple, là, le groupe SOS, il rachète énormément d'assauts de structures sociales, notamment avec le handicap mental et tout ça. Et il y a quand même maintenant un vrai problème, par exemple, sur le handicap mental et sur le travail qu'on fait faire aux personnes handicapées, où il y a des personnes handicapées qui se retrouvent à travailler 8 heures par jour dans des usines, quoi. Mmh. Et en fait, oui, ça marche parce que c'est rentable, tu fais travailler des personnes handicapées à pas cher. Mmh. Du coup, ça rapporte de l'argent. Mais en fait, quelle est l'émancipation de ces personnes-là quand ils rentrent chez elles?
Enfin, voilà, ça peut.
Et au mal-être, tout, travail, c'est une sorte de nouveau esclavage parce qu'ils n'ont pas de droits, ils n'ont pas de syndicat, ils n'ont rien. Et du coup, il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte derrière. Et puis toi, quand tu es éducateur spécialisé ou assistant social, c'est quoi ta plus-value là-dedans, quoi? Finalement, tu viens de chef d'atelier, quoi.
On va continuer sur les dérives associatives, puisque c'est un peu la thématique de la matinée, et surtout de voir aussi comment les actions des associations sont de plus en plus... contrôler, pas uniquement financièrement, mais aussi dans le sens qu'elles doivent prendre politiquement et idéologiquement. Mais avant ça, une petite pause musicale, s'il vous plaît. Back on the news, it's your favorite Republican hoots. It's your fella with the nigger shoes, 2 chains, 2 birds, and we know what's good. Guess who's back to abuse every solvent that I choose? 2 blues and a pint that's stout. I never you man, never smells a trout. Fuck, Coach K, Tad, Chat, and my young Stalford, Douglas, and the UP. Got that, even weed in my hat. Go back to Dublin if you want the rap finished. Itched. I'm gonna say this once, you're gonna stay, just don't be constant. Don't be running around like silly old times. Just take these jokes, I'ma go for a dance. 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 V&D UP harassing me, but now we're all on the yokes and it's starting to be a good night out. They forgot all about the time that I said something like Brits out. Arlene's throwing shapes off a yoke, nearly killed her. Jeffrey Donaldson's lost all his filters. Shaw ditch mate, take 2 sticks. He got me in a headlock and give me a kiss and I cried. East Alford's having the crack, showing everyone his old tattoo on his back. Arlene said relax or you'll get sacked. Dirt make toga buggy, things get weird when you're whack. Brits out for the night, then we landed in Thompson's. Told Donaldson to double drop to see what happens. Sammy wasn't getting out back at the door. Now he's at the front end platform. Squint na hee and yard yokes la hee. And it's the mullet of fee. Creek knee ha. These are sweet, they're sweeties. I'm eating them like sweeties. Malamore, cooler bottles, August Malaminis. Get your Brits out, get your Brits out, get your Brits out. We're on a mad one. Get your Brits out, get your Brits out, get your Brits out. We're on a mad one. Get your Brits out, get your Brits out, get your Brits out. We're on a mad one. Get your Brits out, get your Brits out, get your Brits out. We're on a mad one. Getting crusty, Arlene or McClay, and she's getting touchy. Must be just my gal or New York, cause she whispered in my ear. My leg that be choked in a bump right into her face, cause the room was spinning all over the place. I couldn't stand, couldn't sit, but I kept her written. And my best mate is a distinguished Brit. We're at the afters, and it's a disaster. Cops are talking politics, there's a lack of laughter. Sky getting out on the sofa, Arlene's chin. Parlo off her head, she believes she sinned. Donaldson has started with his homophobic chat, so everyone has started on him, that's enough of that. Stalford's licking coke off a plate. You've got issues, mate. You've got issues, mate. Issues, mate. Issues, mate. Issues, mate. Get your Brits out. Get your Brits out. Get your Brits out. We're on a mad one. Get your Brits out. Get your Brits out. Get your Brits out. We're on a mad one. Get your Brits out. Get your Brits out. Get your Brits out. We're on a mad one. Get your Brits out. Get your Brits out. Get your Brits out. We're on a mad one.
Coup de sang de 4 associations brestoises qui ont appris à la fin de l'année dernière que leur demande de subvention de 2 000 à 2 500 euros chacune était rejetée malgré un avis favorable des services.
C'est en décembre, le 5 décembre, qu'on a, on a reçu un petit, une petite alerte dans, sur le site de la région pour dire, suite à l'intervention de monsieur le sous-préfet, la, la dotation ne sera pas versée. D'après ses services de renseignement, on n'aurait pas respecté le contrat d'engagement républicain.
Canal Tizèf, Écoumène, Radio U et le patronage laïque Guérin ne comprennent pas en quoi leurs associations auraient dérogé aux principes de la République. Elles y voient plutôt une sanction de leur positionnement sur le dossier brûlant du squat culturel de l'avenir, évacué par les CRS en juillet dernier.
On voit bien qu'on a tous eu un rapport, de près ou de loin, Radio U, c'est franchement assez loin à vrai dire, de soutien avec, avec la salle de l'avenir. Et on sait très bien que le sous-préfet était très engagé à faire de la répression sur ce projet-là de la salle de l'avenir, pour expulser la salle de l'avenir. Soit c'est ça la raison, et dans ce cas-là c'est grave, d'un point de vue démocratique, d'un point de vue des droits des associations. Soit c'est pas ça, et c'est grave, parce qu'ils nous disent absolument pas pourquoi. Dans les deux cas, c'est grave.
Ça fait peur pour l'atteinte aux libertés, l'atteinte à la liberté d'expression. C'est pas rassurant.
Sans ces subventions, les associations ont été contraintes d'abandonner plusieurs projets menés pour les habitants de Brest. La préfecture n'a pas souhaité répondre à nos questions.
Alors la question du coup se pose visiblement et de façon assez, assez pressante aujourd'hui. Est-ce qu'on peut être une association et être financé par le public et ne pas être d'accord avec le public ? Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Là c'est ce qu'on vient d'entendre concrètement. Une demande de subvention d'une association a été faite. Ils l'ont, ils l'obtiennent. Le préfet intervient pour que finalement ils ne l'obtiennent pas, en plus sur une somme qui est ridicule, hein, 2500 euros, parce qu'ils ont plus ou moins valoriser, médiatiser un squat de Brest où ils étaient. Est-ce que c'est des réalités, vous, auxquelles vous vous frottez et... aujourd'hui ?
Alors effectivement, il y a une pression constante pour les associations. On parlait tout à l'heure des baisses de financement, des baisses de subventions. Ça, forcément, sans même encore parler d'atteinte aux libertés associatives, le fait en fait de faire diminuer les subventions, ça fait qu'il y a des associations qui baissent leurs activités, c'est le cas pour 28% d'entre elles, et donc déjà avant même de parler de répression associative, il y a déjà une autocensure de la part des associations, parce qu'en fait quand on doit choisir entre les activités qu'on peut faire, on choisit forcément celles qui vont être le plus facilement financées, et donc il y a déjà, en fait, on se sent déjà bridé à ce niveau-là, sans même parler encore du fait qu'effectivement, sur des appels à projets, sur des demandes de subventions, on peut se les voir refuser sous des prétextes notamment politiques. Ouais.
Oui, bah c'est vrai que Marie a dit une chose importante, c'est qu'on estime, et c'est difficilement chiffrable, mais 80% des associations s'autocensurent, notamment dans la culture. C'est la plus grosse censure, c'est l'autocensure, pour peu de peur de perdre ses financements publics, ce qui est quand même extrêmement problématique.
Mais alors quel type d'autocensure, Fabien, ça peut être, concrètement, c'est quoi ça,
bah, sur la musique, ça peut être, enfin sur le spectacle vivant, ça va être réfléchir à qu'est-ce que tu crées, de quoi tu parles comme sujet, qui t'invite. Dans le social, ça va être avec qui tu travailles, avec quelle structure. Là, on a vu sur le squat, mais ça peut être avec des assos de sans-papiers, ça peut être avec tout un tas de choses. Nous, pour le coup, la censure, on l'a vécu cette année avec le festival Bien le Bourgeon, où on a fait venir le rappeur Médine. Du coup, le département qui avait voté dans un premier temps la subvention a retiré son financement, ce qui est déjà complètement illégal de retirer un financement parce qu'un artiste ne plaît pas. Et je pense que le gros problème, c'est que les élus, ils oublient une chose, c'est qu'en fait, l'argent qu'ils distribuent, ce n'est pas le leur. Déjà, c'est ça qu'il faut rappeler, c'est que c'est de l'argent public. C'est les impôts des gens. Donc en fait, quand on est élu, on a le droit de choisir ce qu'on finance ou pas, mais il n'empêche qu'on a un devoir, c'est quand même un devoir de démocratie et de pluralité. Donc en fait, on n'est pas là pour financer des projets qui plaisent aux élus. Enfin, les élus ne sont pas là pour financer des projets qui leur plaisent, logiquement, dans la loi, mais en tout cas d'avoir une pluralité. Le truc aussi qui est quand même important, c'est de dire que la censure ne vient pas d'un bord politique.
C'est pas forcément l'exclusivité de la droite.
Bah avant c'était l'exclusivité de l'extrême droite. Pour être clair quoi, c'était vraiment l'extrême droite qui mettait beaucoup de pression. Alors ils avaient peu d'élus, donc finalement assez peu de pouvoir. Maintenant on voit qu'il y a quand même des jeux entre les Républicains et l'extrême droite où la barrière elle est quand même compliquée à connaître et que finalement ça va devenir il y a des jeux d'alliance qui sont en cours déjà et tout ça. Donc il y a un basculement quand même très fort vers un autoritarisme. populisme, vers une censure politique de pas mal d'acteurs et tout ça. Mais ce qui est le plus grave, nous, par exemple, on l'a vécu au département, c'est que l'intégralité de la gauche, quasiment, à part un élu, bizarrement le seul qui était noir et musulman, quoi, qui a pas voté la censure de notre événement en ne respectant même pas le cadre de la loi, déjà, dans un premier temps. Donc ça, c'est quand même extrêmement problématique. Quand on a rencontré ces élus en question, que ce soit PCF, Parti Socialiste, dont Amandine Germain, pour ne pas la citer, qui est quand même la chef de file des socialistes pour faire maire de Grenoble, quand on l'a rencontré avec des discours réellement problématiques, islamophobes, aussi de classe, en disant que Médine passe à la baie électrique, mais jamais elle s'attaquera à la baie électrique. Par contre, s'attaquer à une structure populaire comme la nôtre, elle n'y voit pas de problème. Donc effectivement, il y a des trucs aussi derrière qui se jouent, que c'est toujours plus facile d'aller censurer une petite association, une petite organisation, un petit événement, que d'aller censurer quelque chose qui est institutionnel. Et tout ça, donc c'est vrai qu'il y a quand même un vrai problème là-dessus de méconnaissance totale de qu'est-ce que sont les droits culturels. Il n'y a aucun élu, très franchement, qui est capable de dire ce que c'est les droits culturels, alors que ça fait partie intégrante de leur mission, de connaître ça. Parce que ce n'est pas que attaché à la culture, les droits culturels, c'est à l'alimentation, c'est au social, c'est à tout un tas de choses, à l'éducation et tout ça. Voilà, donc ça c'est quand même déjà un réel problème de formation, de base des élus, de connaissance de la loi. Aussi tout simplement, là il y a quand même un Rachida Dati du coup, qui est notre ministre de tutelle à la culture, je sais pas si c'est elle, mais en tout cas son ministère s'aperçoit qu'il y a des dérives très fortes en ce moment et tout ça. Il y a un travail qui est fait avec les syndicats, avec l'Observatoire des libertés associatives et tout, et il y a une fonctionnaire d'État maintenant qu'ils ont embauché depuis un an, qui travaille sur ces questions de liberté associative là, qui va aller former les élus, qui va aller discuter, parce que on rentre dans un régime quand même pré-fasciste, faut se le dire clairement, quoi. C'est pas prêt de s'arranger. Et du coup, avec toutes les dérives qu'il y a là-dessus, le fascisme, il n'arrive pas du jour au lendemain, il arrive petit à petit, et une fois qu'il y est, c'est trop tard.
La fable de la grenouille dans l'eau chaude.
C'est exactement ça. Et du coup, ça commence. Les premiers acteurs qui sont touchés généralement par les montées d'un régime autoritaire, c'est la culture, on le voit très bien. Et du coup, là, il y a vraiment, par exemple, il y a un exemple. Nous, nos voisins de bureau qui sont dans une compagnie de théâtre, ils ont un spectacle jeune public autour de l'écologie. Ils ont osé construire une sorte de ZAD dans leur spectacle. Ils se sont fait censurer. Il y a eu des pressions sur les partenaires institutionnels, pour le coup, pour qu'ils ne soient pas programmés, pour les déprogrammer, pour empêcher qu'ils coproduisent le spectacle, parce qu'ils étaient des coproducteurs et tout ça. Et ça a marché. Ils ont perdu plus de 8000 euros. Donc quand tu es une petite compagnie de théâtre, c'est catastrophique. Mmh. Eux, ils n'ont pas médiatisé parce qu'ils n'ont pas la force de frappe que nous, on a forcément. Mais voilà, du coup, c'est extrêmement problématique parce que c'est quotidien. Nous, on est dans un syndicat qui s'appelle le syndicat des musiques actuelles. Ça fait 4-5 ans qu'à chaque rencontre, maintenant, on discute de ça. Il y a 10 ans, on discutait jamais de censure.
Un point censure.
Sur
quelque chose qui a été programmé.
La semaine où on a reçu cette info de Médine, il y avait 3 événements en France qui étaient censurés. Un événement qui était tourné autour des personnes queer à Lyon, avec grosse pression de l'extrême droite, des élus et tout ça. Un autre événement qui était dans un lieu désacralisé, un concert en plus de musique pop, quoi. Enfin, tu vois, un truc pas du tout politisé. Et l'église catholique a fait pression pour pas que ça ait lieu dans ce lieu qui est pourtant désacralisé, quoi. Enfin voilà, c'est vraiment, elle vient de la censure, elle est extrêmement présente. Toutes les semaines, il y a un cas de censure ou de volonté de censure, en tout cas, avec parfois de la violence. Il y a des groupes d'extrême droite qui sont violents, des élus qui sont violents. Et ça, c'est important de le rappeler aussi quand même, parce que du coup, on reçoit des pressions. Nous, on a reçu des menaces de députés Front National, clairement, en disant que s'ils arrivent au pouvoir, on disparaîtrait. Voilà, et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir, parce que la violence, c'est aussi dur à vivre, vraiment très dur à vivre.
Tu parlais de l'Observatoire sur les libertés associatives. Donc ils ont monté une plateforme qui où on peut venir déposer une plainte, en fait, pour valoriser justement quelque chose qu'on peut vivre en tant qu'association, du chantage, voilà, de la coupe de subventions, etc. Tout à l'heure, je regardais, actuellement il y a 156 entraves qui ont été remontées. Et ils ont publié un rapport là récemment, et c'est assez intéressant. Donc ils mettent à jour, en fait, qu'il y a quatre types d'entraves aux libertés associatives. En gros, on peut les classer. Donc il y a ce qu'ils appellent les entraves discursives et de disqualification. Donc en gros, c'est des attaques aux réputations des structures. Il y a des entraves matérielles, donc les coupes de subventions, des entraves judiciaires, donc des plaintes, des amendes. Ça concerne en particulier, par exemple, toutes les actions de désobéissance civile.
ces derniers temps, en particulier tous les mouvements environnementaux, par exemple, ou écologiques, et ensuite les entraves policières. Et donc, je vous invite à aller voir en tout cas l'Observatoire des libertés associatives. Il y a la liste de toutes les entraves qui sont remontées. Et c'est intéressant de voir un petit peu c'est dans toute la France, il y a plein de cas très différents. Mais à chaque fois, en tout cas, c'est ces questions de liberté, on vous finance, donc vu qu'on vous finance, vous la fermez parce que, en fait, on vous donne de l'argent, donc on ne mord pas la main de celui qui nous nourrit.
Et ça devient tellement problématique que l'Observatoire des libertés associatives a trop de travail à l'heure actuelle. Et du coup, alors ça c'est le côté peut-être positif de la chose, mais il va y avoir une antenne locale qui est en train de se monter à Grenoble. À Lyon aussi, il y a des rencontres qui vont se passer début novembre à Lyon. Et du coup, suite à ça, on va essayer, on a plusieurs structures, plusieurs personnels à être engagés sur ces questions-là, à essayer de porter ça au niveau local aussi, parce qu'en fait, c'est tellement présent que du coup... Du coup, là, c'est dur pour certaines petites associations d'aller au national, chercher des infos et tout ça.
Mais alors, moi là, une des premières choses, quand j'ai commencé à lire un peu la liste des entraves et voilà, toute cette liste-là, là, quand tu la lis, la première chose qui te vient un peu à l'esprit, c'est concrètement, en face, est-ce qu'il n'y a pas des recours juridiques quand même ? Est-ce que la loi ne peut pas faire son travail en fait, par rapport à tous ces coups de pression, ces chantages, ces censures ?
Parce que finalement, c'est des censures qui se cachent derrière un peu ce bouclier là du contrat d'engagement républicain, mais qui en réalité a été complètement dérivé de son point de départ, qui était l'antiterrorisme.
Son point de départ au contrat d'engagement républicain, c'était clairement pour censurer. Enfin, y a pas d'autre but que ça. Parce que le contrat républicain, c'est quand même quelque chose qui est quand même très flou. Juridiquement, déjà, c'est pas viable. Et après, en fait, nous, par exemple, on aurait eu l'occasion. Là, la région, par exemple, ils ont voté notre subvention. On a une notification. Ils ne nous l'ont toujours pas envoyée. Ils ne nous l'enverront jamais. Donc oui, c'est illégal. Si on va en procès, on gagne. Mais derrière, ça veut dire se couper de manière indéterminée les financements à la région et du département. Pour une structure comme la nôtre, c'est équivalent à 25 000 euros, donc un CDI, quoi. Du coup, là, on a perdu quasiment 20 000 euros. Si on espère ne pas les perdre sur les prochaines années, donc on va re-rentrer en discussion avec ces institutions-là, parce qu'en fait, malheureusement, on en a besoin. Faire un événement culturel où tu fais de l'action culturelle où tu fais des prix de place pas forcément très élevés. Enfin voilà, il y a tout un écosystème derrière. Sans financement public, c'est pas viable. Donc du coup, si tu n'as plus ces financements publics-là, tu n'as plus d'événements. Et où en tout cas, tu ne peux pas mettre le sens que tu as envie d'y mettre derrière. Et puis nous, on estime que c'est l'argent public qui doit financer aussi une partie de la culture. Donc du coup, il y a aussi un truc, c'est que oui, on peut rentrer en conflit juridique avec ces institutions-là. On peut gagner. La région, par exemple, ils ont un gros conflit avec une salle de Lyon, ils leur doivent 200 000 euros. La salle va gagner. Par contre, derrière, si ça ne change pas de bord, ils savent qu'ils auront perdu leurs 200 000 euros toutes les autres années. Parce que une collectivité a complètement le droit de ne pas financer un projet sans expliquer pourquoi. Il n'y a pas une obligation de financer des projets.
Donc ça devient presque des conflits de personnes, en tout cas de structures en face de conflits politiques, quoi.
Ça devient problématique. C'est-à-dire que les élus dépassent en fait ce pourquoi ils sont élus, c'est-à-dire distribuer l'argent public, les impôts des gens. En fait, ils pensent que c'est leur argent. Et c'est là où il y a une très grosse dérive et qui est très problématique.
Mais est-ce que ça n'a pas toujours été un petit peu le cas? C'est-à-dire que on sait assez rapidement, quand on arrive dans une ville, un département, une région, de quel bord elle est, en voyant un petit peu ce qu'elle finance ou pas. Est-ce que ça n'a pas toujours existé finalement d'une façon ou d'une autre ? Ma question, c'est dans le sens, finalement, est-ce que la neutralité des financements publics a-t-elle vraiment existé ?
La neutralité n'existe pas. Voilà, normal, ils financent aussi ce qui leur parle en priorité et le copinage. Il y a beaucoup de clientélisme et de copinage dans les financements. Mais il n'empêche que si on prend par exemple une institution comme le département, si moi je parle de ce que je connais, le milieu culturel, il y a un impensé total des politiques culturelles, que ce soit à droite ou à gauche, clairement, voilà. Voire même pire quand c'est de gauche, parce qu'ils ont l'impression qu'ils s'y connaissent, mais ils y connaissent chi. Et du coup, ils font quand même assez confiance aux fonctionnaires, en vrai, aux gens qui bossent pour les institutions publiques, aux techniciens et tout ça. Donc, en fait, les techniciens disent, voilà, ce truc, ça mérite d'être financé. Et du coup, nous, c'est pour ça qu'on a été très surpris quand on a eu ce retrait de financement du département, parce qu'il faisait partie de ce qu'on peut appeler une droite républicaine, où ils finançaient quand même beaucoup de projets, même si c'est des projets qui ne correspondaient pas forcément à leur ligne politique. Et c'est là où il y a une dérive. c'est que maintenant, en fait, on s'aperçoit que finalement, ça devient de moins en moins le cas. La région, c'est une collectivité d'extrême droite, pure et dure. Elle a sucré 80% des financements aux assos écolos, aux assos sociales, aux assos de solidarité, culturelles et tout. C'est clair, tout le monde le sait, voilà, c'est une réalité. Il y a quand même une droite qui est pas sur cette ligne-là, et qu'on pensait être le département, qu'on espère qu'ils reviendront un peu sur ce genre de choses. Mais du coup, il y a toujours, bien sûr, c'est pas, une neutralité n'existe pas dans n'importe quoi. Tout est politique et tout ça, mais il y a une dérive très forte quand même en ce moment.
Oui, il y a un encadrement aussi qui permet en fait aussi ça, parce que on parle du contrat d'engagement républicain, mais quand on parlait aussi du fait de supprimer les subventions de fonctionnement, en fait, il y avait une forme de sécurité aussi avec la subvention de fonctionnement qu'aujourd'hui on n'a plus avec la subvention par projet. Et donc c'est aussi un objectif politique de permettre en fait aux collectivités de pouvoir censurer les associations comme elles le souhaitent, quoi.
Il va falloir qu'on libère le studio, mais peut-être avant de clôturer, quand même, quelques peut-être pistes d'action, peut-être de pistes de choses à faire pour ne pas se faire écraser par tout ce tank qu'on décrit depuis une heure là. Est-ce que vous avez déjà des idées, des réflexions?
Alors l'Observatoire des libertés associatives, c'est bien parce qu'il recueille toutes les atteintes aux libertés associatives, mais il propose aussi des pistes qu'on peut retrouver sur leur site internet et qui sont vraiment pas mal. Il y en a une petite douzaine, je crois. Mais notamment, revenir aux subventions par fonctionnement, j'en parle beaucoup, mais parce que c'est un peu le nerf de la guerre, et favoriser les conventions pluriannuelles d'objectifs et de moyens, et aller diminuer tous ces appels à projets, toutes ces subventions sur du financement sur du plus long terme. Et ça peut aussi passer par des choses toutes bêtes comme des commissions mixtes d'attribution au sein des collectivités, donc des commissions qui ne sont pas uniquement avec des élus pour attribuer les subventions, mais aussi avec des citoyens, citoyennes tirés au sort, par exemple.
Donc plus de démocratie dans les décisions de distribution d'argent, du financement sur peut-être plusieurs années au lieu que ce soit des financements au coup par coup.
Ponctuel, ouais.
Et du financement peut-être de fonctionnement, comme vous nous expliquiez, plutôt pour financer finalement l'objet de l'association, ce qu'elle fait de façon générale, mais pas projet par projet.
C'est ça.
C'est ça, Marie ?
Ouais.
Pour une connaissance aussi du territoire, il y a l'Observatoire des politiques culturelles qui recense aussi les baisses de subventions. Alors, c'est dans une première partie d'abord déclarative, mais aussi pour se rendre compte de ce qui se passe en France et peut-être alimenter aussi ce dont on parlait tout à l'heure, de cette solidarité associative aussi, parce qu'on voit que chacune a des fonctionnements très différents, mais qu'il ne faut pas oublier aussi le cœur de toutes ces associations-là qui ont intérêt à travailler aussi ensemble et les unes aussi pour les autres, peut-être.
Ouais, moi j'ai deux choses qui me viennent en tête aussi. Moi, c'est en plus de ce qu'a dit Marie, c'est déjà les solidarités entre structures, c'est-à-dire se soutenir déjà, nous, quand on a eu ça et qu'on a eu 90% des structures culturelles, qu'on signe notre lettre ouverte. Bah, en vrai, ça fait plaisir de se dire que, en fait, il ne faut absolument pas s'auto-censurer et qu'ils ne pourront pas réduire toutes les associations. Voilà, donc en fait, il faut faire venir les artistes qui posent problème tant qu'ils respectent le cadre de la loi. En fait, voilà, s'ils posent problème, c'est parce que politiquement, ça ne correspond pas à ce qu'attendent certaines politiques. Et après, moi, j'ai envie de dire aussi, franchement, prenez la place des élus, quoi. Enfin, je veux dire, si nous, on n'y va pas, dans ces institutions-là, c'est toujours les mêmes qui y vont. Et en fait, il faut qu'il y ait aussi une nouvelle génération de personnes qui se présentent aux élections et qui prennent la place de ces gens-là. Sinon, en fait, qui va nous soutenir, quoi ?
Simplement, oui, pour faire honneur aux musiciens et artistes qui nous ont accompagnés pendant l'émission, est-ce que, Fabien, tu peux nous redonner les titres et les noms des artistes ?
Je ne sais pas, mais en tout cas, le premier groupe que vous avez écouté, c'est Acide Arabe. Pas Acide Arabe, pardon, n'importe quoi.
Taxi Kebab.
Rien à voir, Acide Arabe. J'adore aussi Acide Arabe, mais ce n'était pas ça. Taxi Kebab, c'est un groupe qui s'est arrêté malheureusement l'année dernière, qui était un groupe français. Le deuxième, c'était Knicap, qui est un groupe irlandais, qui se sont fait déjà censurer une première fois en Angleterre parce qu'ils chantent en irlandais. Et voilà, apparemment, c'est mal. Et là, qui se sont fait censurer un peu au niveau mondial parce qu'ils soutiennent la Palestine. Donc voilà, nous, on a eu la même chose avec Medine en France. Du coup, eux, voilà, ils sont pareils, mais au niveau international. Et le dernier, c'était Tchégué, qui est une artiste congolaise qu'on adore et qu'on va faire venir l'année prochaine en juillet. Donc c'est un petit coup de com, voilà. Et voilà.
Merci à vous et on invite les auditeuristes à se renseigner sur l'action de mobilisation qui se déroule du coup demain, donc le 11 octobre dans toute la France pour le milieu associatif.
Et place Saint-Bruno à Grenoble.
Et place Saint-Bruno à Grenoble.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci.
Le trac, le trac, le trac, le
Radio.
Du côté de l'ALMA, une émission de quartier quotidienne et éphémère.
Sur 90.8 FM.
Ah, encore un figuier. Il y a des figues là.